La prière sacerdotale, Jean chapitre 17. La prière sacerdotale, hein, sacerdotale, c'est l'adjectif dérivé de sacerdoce. Hein. J'avais complètement oublié de le mentionner quand on venait de commencer, c'est-à-dire le dernier mercredi où on était ensemble. Et la prière sacerdotale, c'est la prière du sacerdoce, du saint sacerdoce, auquel Dieu appelle les souverains sacrificateurs et après eux, les prêtres, ou bien les pasteurs, les évêques, hein, tout ce qui a la charge du troupeau. Le ministère, le saint ministère, c'est le saint sacerdoce. C'est la prêtrise. C'est de ça qu'on parle quand on dit prière sacerdotale. C'est la prière du sacerdoce, de celui qui a la charge sacerdotale. La charge de la vocation du ministère pastoral pour notre temps et du temps du Christ et plus loin, mais ceux qui avaient la charge du temple, les souverains sacrificateurs et les prêtres qui les accompagnaient. Alors voilà. C'était ça pour le sens du terme sacerdotal. Alors, oui, c'est le thème, le titre de l'étude de ce soir. Nous allons lire à partir de juste le verset premier pour nous mettre en contexte, mais on va commencer à étudier à partir du verset 3. Okay? Jean chapitre 17, verset 1er à 10. Mais on n'arrivera pas au verset 10 aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. On va faire que le lire pour le contexte, OK? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 3, Jean chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6, Jean chapitre 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Gloire à notre Dieu. Verset 7. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et le Seigneur bénit sa parole. Pour notre plus grande édification, mes frères et mes sœurs. Alors, le Seigneur Jésus dit au verset 2 du texte que nous venons de lire, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Notez la vie éternelle une première fois. Notez ce que tu lui as donné une première fois. Et verset 3, pour la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et remarquez les multiples fois où la vie éternelle revient dans le passage et ce que tu m'as donné. Remarquez combien de fois cela vient aussi dans le texte. Et ça va attirer notre attention beaucoup, tandis que nous allons étudier ce segment des Saintes Écritures. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jésus donne une définition de la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Or, la vie éternelle, verset 3, hein, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Et avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il est, et pour ce pourquoi il se révèle. C'est connaître les œuvres de Dieu. C'est connaître Dieu comme sauveur. C'est accepter Dieu comme sauveur. C'est ça le sens de connaître dans ce passage. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Tous ceux qui connaissent Dieu comme le seul vrai Dieu a la vie éternelle. Hein? Pas oublier ça, non? Tous ceux qui connaissent Dieu comme le seul vrai Dieu a la vie éternelle. Mais attention, on ne parle pas des musulmans ici. On ne parle pas des judaïsants ici. Et apparemment, eux, ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas comme le seul vrai Dieu. Et la connaissance dont on parle ici, c'est la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Hein? N'en déplaise à nos amis témoins de Jéhovah, ou à nos amis musulmans, ou à nos amis judaïsants. Quand on dit connaître, là, ce n'est pas n'importe quel connaître, c'est le connaître comme le Fils de Dieu le révèle. C'est le connaître en passant par le Fils de Dieu. C'est le connaître au travers de la révélation du Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est le connaître en Jésus-Christ. On est là? Et la vie éternelle est accordée à ceux qui connaissent Dieu comme étant le seul vrai Dieu, eh bien, à travers Jésus, le Fils de Dieu qui est la porte. On en a beaucoup parlé. Il est la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est en passant par Jésus-Christ qu'on accède, hein, qu'on parvient à la connaissance de Dieu comme étant le seul vrai Dieu. Hein? Ce n'est pas le truchement du Christ que ça se passe. Ce n'est pas le canal du Christ que ça se passe. Puisqu'il est le chemin à Dieu. Il est la porte vers Dieu, vers la vie éternelle, vers la connaissance de Dieu. Il est écrit, il n'y a de salut, Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut, donc il n'y a de vie éternelle. Le salut signifie la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La vie éternelle parle d'une qualité de vie. La vie éternelle ne parle pas uniquement d'une quantité de vie, si on peut s'exprimer ainsi. La vie éternelle parle d'une qualité de vie. Et non uniquement d'une quantité de vie. Quantité entre guillemets. Hein? Mettez quantité entre guillemets. La vie éternelle vous permet à vous et à moi et à mes parents qui ont accepté Christ comme leur sauveur, à ceux qui viendront après nous. Il ne nous permet pas seulement de vivre éternellement. La vie éternelle nous permet de jouir, hein, d'être en communion avec Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais la vie éternelle, c'est une communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Hein, plus qu'une qualité, plus qu'une quantité de vie, hein, plus qu'une durée de vie, bien sûr, ça inclut. Si la vie éternelle était seulement une durée de vie, la vie éternelle ne nous servirait à rien. La vie éternelle n'aurait pas beaucoup de sens. Puisque vous m'avez déjà entendu parler de ça, vous avez déjà entendu d'autres prédicateurs parler de ça. Ceux qui n'acceptent pas Dieu vont vivre éternellement aussi. Vous comptez ça, ils vont vivre éternellement dans l'enfer. Il y a mourir pour y revivre tout. Ils vont passer l'éternité dans l'enfer avec Satan le diable papa yo, maman yo, yo gen sot de, y ap viv eternelman tou. Sauf que viv eternelman pa yo a, se viv eternelman dan la soufrans, dan la mizer, dan la noirceur. Éternellement avec les conséquences de leur méchanceté, de leur incrédulité, de leur incroyance. Alors, voyez-vous, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est bien important, il faut comprendre que la vie éternelle est plus qu'une question de durée de vie, une question d'éternité de vie. C'est plus que ça. C'est aussi, c'est surtout, hein, c'est ça pour nous, et dans le sens où nous avons une qualité de vie parfaite, là où c'est bien important, rapidement, hein? C'est pas ça le sujet, mais c'est important pour comprendre ça. Tandis que les incrédules, hein, avec les mauvais anges, et avec les Satan, le diable, vont passer l'éternité dans l'enfer. Ils vont connaître l'horreur du péché dans sa dimension finale, extrême, la plus extrême. Hein? Ils vont connaître les conséquences et l'horreur du péché et de ses conséquences dans sa phase finale, la phase extrême, la dernière phase. Et tandis que ceux qui vont être dans la Nouvelle Jérusalem vont connaître la douceur de la communion avec Dieu, la douceur du pardon du péché, est-ce qu'on a la douceur de la justification de la communion avec Dieu dans sa phase extrême aussi, dans sa phase aboutie, dans sa phase parfaite aussi. Voyez-vous? Donc, dans les deux cas, ce sera deux extrêmes, dans les deux cas, OK? Donc, la vie éternelle est une, autrement dit, donc revenons, centrons plus le sujet, la vie éternelle est aussi une qualité de vie dans la mesure où la vie éternelle est une question de communion avec Dieu. Communion spirituelle, tandis que nous sommes encore dans ce monde, et communion éternelle qui commence maintenant par la communion spirituelle lorsque nous serons éternellement avec notre Dieu. Donc, cela commence maintenant dans le présent, puisque nous sommes en communion parfaite avec notre Dieu. Notre Dieu nous conseille, il nous parle, il nous assiste, il nous protège, il nous dirige, il nous remplit. Donc, tout ça, c'est des manifestations, c'est des états de la vie éternelle. C'est des états de la vie éternelle, c'est des aspects, c'est des niveaux de la vie éternelle. La communion avec notre Dieu, hein? Une qualité de vie, une communion, une joie qui peut être perturbée une fois de temps en temps dans ce bas monde, une paix, un bonheur, un repos, un sens de la vie, hein? Un sentiment d'assurance, un sentiment de réconfort. Tout cela traduit la vie éternelle dans son état présent, hein, dans le temps présent. Hein. Et c'est tout ça que vous nommez là, la joie, la paix, le bonheur, la satisfaction, cap, vous faites dit à l'heure là, cap gué couronnement, yo, cap arrivé dans la phase finale, yo, dans la phase parfaite, yo, lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem. Voyez-vous, nous faisons l'expérience de la présence de Dieu maintenant. Nous faisons l'expérience de la communion avec Dieu maintenant, du bonheur en Dieu, du repos en Dieu, de la paix en Dieu et avec nous. Maintenant, il n'y a pas de doute là-dessus. Et étant encore dans ce monde, tout cela peut être perturbé et provisoirement par des circonstances difficiles de la vie. Hein? Mais alors, nous expérimenterons toutes ces choses dans leur phase de perfection. Et en vérité, je vous le dis, Jean 5, verset 24, le Christ qui parle. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne dit pas aura la vie éternelle, à la vie éternelle. Donc, c'est bien important de comprendre, de saisir cette question-là du temps. De ne pas avoir besoin de saisir de la vie éternelle. Le temps de la vie éternelle, c'est aussi le temps présent et le temps futur. Le temps présent et le temps futur de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose, je l'ai déjà dit, qu'on aura lorsqu'on sera dans le ciel. Non. C'est plutôt la vie éternelle qui nous mènera dans le ciel. C'est le fait d'avoir la vie éternelle qui fait que nous irons dans le ciel, qui fait que nous sommes en route vers le ciel. Hein? Il y a la présence de cette vie éternelle, et oui, il y a la dimension future, futurologique, eh bien, de la vie éternelle, à n'en pas douter. Et nous sommes très à l'aise avec cela. Jean écrira également, je vous ai écrit ces choses, le même Jean, hein, qui nous parle ici en Jean 17, qui rapporte la prière du Christ. Il est beaucoup versé dans la vie éternelle. Il nous dira, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et Paul est l'apôtre de la grâce, Jean c'est l'apôtre de la vie éternelle. Et vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, 1 Jean 5, le verset 13. Donc, nous jouissons, vous et moi, déjà de la vie éternelle. Ou qu'il y a une douleur, ou qu'il y a une souffrance, ou qu'il y a fait face à des temps difficiles, à de la maladie, ou qu'il y a fait face au carrasseur, ou qu'il y a fait face à la persécution, mais ou qu'il y a la vie éternelle. Et ou alors, ça pas empêcher ou qu'il y a la vie éternelle. Et toutes ces choses, les hauts et les bas de la vie ne peuvent vous ravir votre vie éternelle que Dieu eh bien, vous donne par son sang versé à la croix du calvaire infâme à Golgotha. Et c'est pour nous une source d'assurance. Hein? C'est pour nous une source d'assurance de savoir cela. Et si notre corps peut être menacé, si nos avoirs, nos biens peuvent être menacés, mais notre âme ne saurait être menacée. Hein, parce que nous avons la vie éternelle, nous avons le salut éternel. Et c'est bien important de comprendre cela. Et nous ferons, je viens de le dire, l'expérience de cette vie pleinement dans les siècles à venir. Non, dans la nouvelle Jérusalem. J'en ai parlé abondamment dans la congrégation et à dimanche dernier. Et lorsque la mort ne sera plus, hein, c'est celle-là, ça nous parle. Nous ferons pleinement l'expérience de cette vie éternelle, de cette paix, de cette joie, de ce repos, du pardon des péchés, d'être préservé des conséquences du péché, de la domination du péché. Tout ça vient avec la vie éternelle. Hein. Eh bien, nous ferons la pleine expérience de toutes ces choses-là dans la Nouvelle Jérusalem, lorsque la mort ne sera plus, lorsque la souffrance ne sera plus, lorsque jalousie, la haine, la colère, la méchanceté ne seront plus. Mais en attendant, nous sommes déjà dans cette dimension. Et étant cachés en Christ, et étant donné que Christ vit en nous. Alors, voilà pour aujourd'hui, en ce qui a trait à la vie éternelle. Nous y reviendrons sûrement parce que le Christ va continuer à parler de la vie éternelle, à répéter la vie éternelle. Nous y reviendrons. Passons maintenant au verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et le Christ qui parle de son Père. Et la prière s'appelle une prière sacerdotale, mais a remarqué qu'il n'a pas encore commencé à intercéder pour ses disciples. Et il commence d'abord à parler avec le Père lui-même. Et je fais remarquer toutes ces choses. Et même après avoir fini de parler avec le Père, de parler de causer au cœur ensemble, disons que au cœur même. Et il parler aussi des disciples. Avant même de commencer à demander spécifiquement des choses pour les disciples. Il va faire cela jusqu'au verset 10. Il va commencer à demander des choses spécifiques pour les disciples à partir du verset 11, pratiquement. OK? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, le verset 4. Nous voyons le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, qui a la certitude que la promesse éternelle de Dieu s'accomplira à la perfection et que rien ne saurait empêcher que les desseins du Père se réalisent. Nous voyons que Jésus, qui a la certitude que la promesse éternelle de Dieu s'accomplira et s'accomplira parfaitement, donc à la perfection, comme je viens de le dire, et que rien ne saurait empêcher que les desseins du Père se réalisent. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Hein? Cette affirmation sert d'exemple aux disciples. Elle sert d'exemple aux disciples. En ce que cette affirmation du Christ hein, vient rappeler aux disciples de Jésus qui l'écoutaient prier, hein, qui l'écoutaient prier, qui le regardaient prier. Cette affirmation vient rappeler aux disciples la nécessité pour eux d'avoir foi dans l'œuvre de Dieu et de se consoler en sachant que Dieu est au commandement. Voilà l'importance de cette affirmation pour les disciples. Quand Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus affirme à Dieu le Père le fait que son plan a été exécuté à la lettre. Et en s'exprimant à voix haute, hein, devant ses disciples, le Christ voulait s'assurer que les disciples comprennent cette réalité-là, à savoir que le plan de Dieu, parfaitement conçu dès avant les temps éternels, eh bien, a été parfaitement accompli dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Ça a été le but de Dieu, que le Fils le glorifie sur la terre par sa venue, par sa mort et par sa victoire sur la mort, par sa résurrection. Il a glorifié Dieu le Père. Ça a été le plan de Dieu le Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Les disciples ont besoin de savoir cela. Parce que ça va être la même chose pour eux. Ils auront à glorifier le Fils sur la terre. Ils auront à glorifier Dieu le Père par leur vie spirituelle, par leur vie ministérielle sur la terre. Ils auront à faire l'œuvre que le Fils leur a donnée, de la même manière que Dieu le Père a suscité Dieu le Fils pour le glorifier sur la terre en faisant son œuvre et en l'accomplissant, en l'exécutant à la perfection. Dieu, le Christ, appelle 12 hommes également pour faire son œuvre sur la terre et ainsi glorifier le Père. Alors, ils ont appris par la prière, par cette affirmation du Christ, eh bien, que le plan divin a été réalisé. Et cela est, le Christ parle à voix haute à son Père. Il aurait pu prier silencieusement. Il l'a déjà fait plus d'une fois. Mais là, il parle à haute voix, non seulement pour les assurer qu'il prie pour eux, ça se parle, il n'y a aucun doute, mais il le fait aussi pour leur apprendre davantage de choses sur ce Dieu, eh bien, avec qui ils sont appelés à marcher. Hein? Et verset 5. Et maintenant, Jean chapitre 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Si vous avez des questions par rapport au verset 3 et au verset 4, eh bien, j'espère être capable de vous aider, laisser du temps à la fin pour les poser. Maintenant, j'enchaîne avec le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, mais avant que le monde soit. Gloire à notre Dieu. Le Christ a accompli le plan que Dieu a conçu. Et le Christ sait qu'il sera élevé bientôt à la position qu'il occupait avant son incarnation. C'est-à-dire, il sera élevé à la droite de Dieu le Père. Glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Hein? Ayant tout accompli selon le plan de Dieu, le Christ a la certitude, et c'est pour ça, c'est ça aussi qu'il demande, il a la certitude de réintégrer sa gloire d'avant son incarnation, de réintégrer sa position à la droite de Dieu le Père. Et avec l'exaltation du Christ qui est à venir, eh bien Jésus exprime son désir, oui, son désir de retrouver la gloire céleste, la gloire qu'il occupait dès avant, eh bien avant son incarnation. Et il demande au Père de le glorifier auprès de lui-même de la gloire qu'il avait. Cette gloire, c'est la gloire qu'il avait auprès de Dieu avant son incarnation. La gloire qu'il avait quittée, la gloire dont il s'était dépouillé, hein, pour se faire petit, pour se faire humble, pour s'incarner, entrer dans le ventre d'une adolescente et pour naître. Voilà la gloire et voilà la position d'exaltation, eh bien, qu'il vient de réclamer. Il le savait, c'était ça le deal, hein. C'était ça le deal, c'était ça l'entente qu'il avait avec Dieu le Père. Il connaît parfaitement le plan de Dieu le Père. Il réintégrerait sa gloire éternelle dont il s'était dépouillé pour prendre la forme d'un serviteur, pour venir vous sauver, toi et moi, pour venir vous accorder à vous et à moi la vie éternelle. Il connaissait, alors voilà pourquoi au terme de sa mission, gloire à notre Dieu, au terme de sa mission qu'il a exécutée à la lettre, parfaitement, mais il réclame sa position d'antan. Et nous savons qu'il réintégrera cette position, frères et sœurs. L'apôtre Jean a décrit la communion éternelle et de Dieu avec de Dieu le Fils avec Dieu le Père et en disant au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hein? Elle était au commencement avec Dieu. Donc voilà. Et la parole ici, vous savez que la parole suggère le Fils de Dieu. Et la deuxième personne de la Trinité, au commencement, était la parole était avec Dieu. Notez, était avec Dieu dans l'éternité parfaite de Dieu, dans l'éternité sainte de Dieu, à la position de grandeur, d'exaltation, au trône de Dieu. Il siégeait à la droite de Dieu le Père. Donc, et maintenant que la mission du Fils est arrivée à sa fin, à son terme, eh bien, il réclame à réintégrer la gloire céleste, la gloire éternelle dont il jouissait aux côtés du Père, à sa droite tout particulièrement, depuis l'éternité. Donc, il demande, autrement dit, il demande à être couronné, OK? Il demande à être couronné. L'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Il demande à être couronné. L'heure de son couronnement est venue. Il en est conscient, il le sait, il est Dieu. Mais nous-mêmes avec moi, nous connaissons l'heure de couronnement arrivée, si Dieu veut. Alors lui, il connaît que l'heure de son couronnement est venue. Paul dira, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'il a demandé, il l'a eu. Hein? Et non seulement il l'a eu, mais ce qu'il a demandé entre dans le cadre d'un plan parfait et de Dieu le Père. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, le c'est pourquoi réfère au fait qu'il s'est humilié. Hein? Et Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Il s'est humilié, donc il s'humilie pour accomplir sa mission. Quand on dit il s'est humilié, mais on dit la même chose qu'il a accompli parfaitement sa mission. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Donc, il s'est humilié à la perfection, on va dire. Et parce qu'il s'est humilié, Paul dit que Dieu l'a souverainement élevé. Ce qu'il a demandé, il l'a eu. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Encore une fois, je rappelle Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Ce texte fait état de l'exaltation du Christ à couronner. Et maintenant, Jésus regarde au-delà de son humiliation. Il regarde au-delà de ses souffrances. Il regarde au-delà de ses mains percées. Il regarde au-delà du vinaigre qu'il a eu à boire. Il regarde au-delà des coups qu'il a encaissés. Il regarde au-delà de ses douleurs et de sa souffrance. Et pour contempler la gloire céleste à son retour dans les cieux, frères et sœurs. Le Christ sait également que sa mort va procurer la vie éternelle à tous ceux qui croiront en lui. Et ceux qui sont en lui ont la vie éternelle. Il ajoute sa voix à la chorale des cieux pour remercier Dieu, pour louer Dieu, pour de ce que ceux qui sont avec lui ont la vie éternelle en Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. Et lorsque nous contemplons ces réalités qui a permis au Fils de Dieu de se réjouir pour ceux qui ont la vie éternelle, malgré la honte et la souffrance associées à la vie du Fils de Dieu, eh bien, nous ne pouvons que nous réjouir avec lui de ce que nous aussi, nous serons couronnés au moment où le Christ reviendra nous chercher, frères et sœurs, mes bien-aimés. Plus de 2000 ans plus tard, Nous ne devrions jamais perdre de vue la gloire et l'honneur que Jésus mérite en raison de son œuvre rédemptrice à la croix. Le Fils parle de sa gloire. Il réclame sa gloire. Des années sont passées, des jours ont passé, des mois ont passé, des décennies ont passé, mais cela ne devrait d'aucune façon nous faire oublier, nous faire perdre de vue la gloire de Jésus, l'honneur de Jésus, ce que Jésus a enduré pour nous par amour sur la croix. Est maintenant l'hymne de notre louange et de notre adoration. On aime chanter ce chant qui dit Dieu est le sujet de notre joie. Cet hymne sera chanté par vous et par moi de concert avec les saints anges pendant toute l'éternité lorsque nous louons éternellement notre Dieu pour la glorification, l'honneur du Fils de Dieu. Et pour notre glorification avec lui, étant donné que lui et nous faisons qu'un dans la vie éternelle qu'il nous donne. Étant donné qu'il vit en nous et nous vivons en lui, nous allons dans la sainte céleste, dans la sainte cité céleste, louer notre Dieu pour l'agneau immolé, l'agneau qui a été sacrifié dès avant la fondation du monde. Et qui a réintégré la gloire éternelle, en l'occurrence notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. Dans la vie, il y a des épreuves. Dans la vie, il y a des difficultés. Je viens d'en nommer quelques-unes. Hein? Il y a les difficultés, les épreuves, les tracas, les tourments, les problèmes de la vie que nous pouvons rencontrer. De grâce, prions que Dieu nous préserve, que ces difficultés nous fassent oublier que notre Seigneur Jésus-Christ est dans sa gloire maintenant. Prions que Dieu nous fasse la grâce de ne jamais oublier que Jésus est entré dans la gloire. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus sur la croix, essuyant les déceptions, les coups, les blessures, les moqueries, les injures. Jésus est dans sa gloire éternelle. Jésus est à côté, est à la droite de Dieu le Père. Il est glorifié, il est béni éternellement, étant assis éternellement à la droite de Dieu le Père. Et lorsque nous louons le Fils de Dieu, eh bien, n'oublions pas que c'est en cela, pour cela que nous le louons. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout et de tous. Il est élevé au-dessus de sa création, comme il l'a toujours été. Mais pour un temps, il a accepté, eh bien, de se dépouiller de cette gloire pour accomplir son œuvre parfaitement. Et maintenant que l'œuvre est accomplie, il est entré dans la gloire. Nous servons un Christ glorifié. Nous servons un Christ couronné, nous servons un Christ élevé, nous avons un Rédempteur couronné, un Rédempteur élevé qui n'est plus dans le tombeau, qui est vivant au siècle des siècles, mes frères et mes sœurs. Et c'est comme ça que nous devons le célébrer. C'est avec cette conviction au cœur que nous devons célébrer le Christ, chanter sa gloire, chanter l'espérance que nous avons en lui. Et le louer pour cette victoire. Frères et sœurs, la vérité pour nous ce soir, c'est que la croix a rendu la vie éternelle possible pour vous et moi. La croix de Jésus a rendu possible la vie éternelle pour vous et pour moi, et pour toutes celles et ceux qui croient sincèrement en Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs, parce que nous venons de dire que c'est en lui que la connaissance de Dieu se réalise. Même tous ceux et toutes celles qui, avant la croix de Jésus, se sont repentis sincèrement de leurs péchés et qui ont cru au pardon, à la grâce et à la miséricorde de Dieu en tant que source d'espérance, ils ont eux aussi la vie éternelle parfaite. En d'autres termes, sans la croix, aucun homme, aucune femme, quel qu'il soit, en dehors de Jésus-Christ, aucun homme, aucune femme, eh bien, ne pourrait être sauvé et de ses péchés, ni pardonné, être pardonné, ni bénéficier de la grâce, eh bien, de Dieu en Jésus-Christ. Sans la croix, le plan éternel du salut que Dieu a promis depuis avant le début des temps éternels ne donnerait aucun fruit, frères et sœurs. En d'autres termes, ce soir, ça prend la croix, ça prend le sang de Jésus, un sang parfait, ça prend le sang de l'agneau. Et je crois que cette vérité ce soir est appelée à nous motiver. Nous qui connaissons déjà Jésus, nous qui aimons déjà Jésus, nous qui connaissons Dieu le Père déjà en Jésus-Christ, de tout notre cœur, eh bien, cette vérité, cette réalité de la croix, hein, de la mort de Jésus, qui est un passage obligé à la vie éternelle, au salut, au pardon des péchés, eh bien, cela devrait nous motiver à la joie ce soir, par-delà les temps difficiles. Cela devrait nous motiver au service, à travailler pour le royaume ce soir. Cela devrait nous motiver à la louange, à l'adoration, à l'action de grâce. Paul dira à Galates 6, verset 14, pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Voilà une réponse, je dirais, biblique. Voilà une réponse, la réponse qu'il faut au fait que Jésus n'est plus sur la croix, il est plus dans le tombeau, il est glorifié, il est entré dans l'exaltation, il est couronné. Voilà ce qu'il faut faire de cette vérité que nous venons d'exposer. Nous venons d'exposer le fait que vous avez la vie éternelle. Voilà ce qu'il faut faire avec cela. Pour ce qui me concerne, dit Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose. Notre seul sujet de gloire, c'est Jésus de Nazareth, celui-là, hein, qui est mort pour nos péchés. Celui-là qui a accompli parfaitement l'œuvre de Dieu le Père et qui est entré dans la gloire. Il est notre seul sujet de gloire. Celui-là qui nous glorifie, il est notre seul sujet de gloire. Il est notre seul sujet de fierté. Il est notre seul sujet de joie. Hein, gloire à notre Dieu. Voilà pour le verset 5 et avant lui, le verset 4, le verset 3. Maintenant, enchaînons avec le verset 6. J'ai fait connaître ton nom, Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Je vous ai parlé de tu m'as donné, qu'on a déjà au verset 2. Et maintenant, on l'a au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, c'est Jésus qui s'adresse à Dieu le Père. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Je crois que c'est avec le verset 6 qu'on va peut-être s'arrêter aujourd'hui. Nous venons de voir qu'en Jean chapitre 17, versets 1 à 5, Jésus a prié en demandant à Dieu le Père de le glorifier. Hein? Au verset 6 à 19, il va progresser dans sa prière. Il va intercéder pour ses disciples. Et au verset 6 à 10, on va voir que le Christ ne fait pas de demande spécifique à Dieu pour ses disciples pour lesquels il intercède, OK? Il va plutôt, au verset 6 à 10, plutôt que de demander quoi que ce soit encore de spécifique pour les disciples, il va plutôt mentionner leur histoire, ce qui leur est arrivé, l'expérience qu'ils ont faite. avec Dieu le Père en rapport au plan éternel de Dieu le Père. Il va faire la même chose pour lui. Il va mentionner une partie de son histoire, toujours en rapport avec le plan de Dieu le Père, et cette histoire que les disciples, à laquelle les disciples vont participer. Ce ne sera qu'au verset 11 à 19, comme je le disais tout à l'heure, qu'il va commencer à demander des choses spécifiques, très clairement. Il va formuler des requêtes spécifiques pour ses disciples. Donc, ça c'est pour la structure du texte. C'est quand même important d'en parler. J'aurais pu ne pas en parler, mais c'est important. On est en étude biblique, OK? Il va rien demander jusqu'au verset 10. Et à partir et à 11, il va commencer à formuler des demandes spécifiques, une à une, hein, pour ses disciples. OK? Donc, revenons au verset 6, cela dit. Il commence par dire, voyez-vous, quand je dis, il mentionne leur histoire, l'histoire des disciples, son histoire à lui aussi, en rapport au plan salut de Dieu le Père, à l'égard de ses disciples, mais à l'égard de tous, de l'Église en général. Regardez, tu vois. Voici un élément d'histoire. Voici un élément d'histoire. J'ai fait connaître ton nom. C'est un élément d'histoire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Jésus définit ses disciples, ceux pour qui il prie. Il les définit comme étant ceux à qui il a fait connaître le nom du Père. Ça vous rappelle quelque chose? On était dans la connaissance tout à l'heure, on se rappelle. On a dit que cette connaissance passe par Jésus. Voilà, il revendique son rôle dans le salut, dans la vie éternelle de ses disciples. Gloire à notre Dieu, on en a parlé avec cela. C'est avec cela qu'on a commencé. L'expression fait connaître ici signifie révéler. Je leur ai révélé ton nom. Hein? Je leur ai fait connaître, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Je les ai intégrés à ta communion. Je les ai intégrés à ta communion. Je les ai révélé ta personne. Je leur ai manifesté ta personne. Je leur ai montré ta personne ou le chemin vers ta personne. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Maintenant, il n'y a pas seulement dans ce début du verset 6, j'ai fait connaître. Il y a également ton nom, l'expression ton nom ou bien le nom de Dieu renferme tout ce que Dieu est. Je leur ai fait connaître ton nom, je les ai fait connaître ton caractère, ton essence, ta nature, tes attributs, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, tes compassions, ta fidélité, ta puissance, ton amour, et nommez-les. Ceux qui ont la vie éternelle connaissent ces choses de Dieu. Et ce seulement ceux qui ont la vie éternelle qui connaissent ces choses de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle, qui ne connaît pas Dieu, ne peut pas savoir que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne peut pas savoir que Dieu est un Dieu de grâce. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas expérimenté la grâce, la miséricorde de Dieu. Et le psalmiste va parler du nom de Dieu, psaume 9, verset 11, en disant, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, voyez-vous? Voyez-vous, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. En d'autres termes, ceux qui ne connaissent pas son nom, qui ne connaissent pas son caractère, ses attributs, ce qu'il est, eh bien, ils ne sauraient se confier en lui. Voyez-vous, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent ô Éternel. Plus loin, le psalmiste va s'écrier avec exaltation, frères et sœurs, en disant, ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom. Voilà notre Dieu. Nous invoquons le nom que le Christ a fait connaître à toi et à moi. le nom que le Christ a fait connaître à ses disciples qui étaient avec lui dans la chambre haute pendant qu'il priait pour eux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le psaume 20 au verset 8, gloire à notre Dieu, ce à quoi le psalmiste ajoute, je publierai ton nom parmi mes frères. Ah, je parlerai de toi, de ton caractère, de tes attributs, de ta puissance, de ta bonté, de ta sagesse, de tout ce que tu es auprès de mes frères. Voilà. Jésus a fait connaître le nom de Dieu à ses disciples. Jésus a révélé Dieu à ses disciples, mes frères et mes sœurs. Lorsque Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. Si bien que le Christ dira, Jean 12, verset 45, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est à ce point qu'il a fait connaître le nom de Dieu à ses disciples. Ils l'ont vu et en le voyant, ils ont vu Dieu. Ils l'ont vu et en le voyant, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la bonté de Dieu. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Ils ont vu la sainteté de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu en ayant vu le Fils de Dieu. Jésus se passe de présentation. Celui qui m'a vu, dira-t-il, on l'a vu ensemble au chapitre 14, verset 9b, celui qui m'a vu a vu le Père. Et les auteurs du Nouveau Testament s'associent ensemble pour dire une seule même vérité sous d'autres termes, en d'autres mots. Ainsi, Paul dira, Colossiens 1er, verset 15, que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Voyez-vous? Toujours en Colossiens 2, verset 9, Paul va dire la même vérité que le Christ vient de relater ici en Jean 17, au tout début de sa prière sacerdotale, quand Paul dira Colossiens 2, le verset 9, en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Gloire, gloire à notre Dieu. Paul dira en Philippiens 2, verset 9, il a existé en forme de Dieu. Il est le Hébreu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, Hébreu 1er verset 3, que le Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Alors, c'est à n'en pas douter que le Christ a révélé le Père en son nom, en ses attributs, en ses caractères, à ses disciples. Le Christ sait de quoi il parle, frères et sœurs. J'ai fait connaître, nous sommes toujours au verset 6, hein? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, du milieu du monde, aux hommes que tu m'as donné. Ça, c'est important. On ne peut pas passer dessus. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Dieu a donné des hommes à Dieu, à Christ. Dieu a donné des hommes à Christ, mais pas que des hommes. Ici, hommes inclus. Non seulement les saints apôtres, les disciples du Christ qui étaient avec lui dans la chambre haute, mais également les sœurs, les servantes de Dieu et, sont inclus là-dedans. Hein? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Nous avons ici, dans j'ai fait connaître ton nom aux hommes, tu vois, j'ai parlé de j'ai fait connaître, j'ai parlé de ton nom, et maintenant je suis rendu à aux hommes que tu m'as donné, en seule phrase. Il y a trois enseignements là-dedans. Au point de vue, je dirais, doctrinal, et au point de vue pratique, OK? C'est bien important. J'ai fait connaître, je l'expliquais. Ton nom, je l'expliquais, qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu. Et maintenant, aux hommes que tu m'as donné. Même si nous précisons, on ne va pas passer sous aux hommes que tu m'as donné. Il faut nous comprendre ça. Il faut nous tirer tes souliers. Vous comprenez déjà, mais il faut nous tirer tes souliers. Nous avons ici une mention de la doctrine de l'élection. J'ai beaucoup parlé de la doctrine de l'élection quand je parlais de l'Église. Hein. Mais qu'à cela ne tienne, à chaque fois que ça revient, on en parle. Okay? Nous avons ici une mention de la doctrine de l'élection sans la nommer explicitement. Ou par exemple, des mots élection dans vous, Seigneur, là. Seigneur a dit aux hommes que tu m'as donné. Il dit pas élection, mais c'est de l'élection qu'il parle. Okay? Il parle de l'élection. Il connaissait le principe de l'élection. Il connaissait la doctrine, la vérité, la réalité de l'élection divine. La doctrine de l'élection, je vous en ai déjà parlé, c'est la Bible qui enseigne très clairement qu'en Jésus-Christ, Dieu a élu l'Église. Ah. Dieu a élu l'Église, chaque personne sauvée, ou même moi-même, tout l'autre monde qui est sauvé dans le monde avant nous, après nous, maintenant, yo. Mais Dieu l'y choisit, l'y élu, l'y prédestiné dès avant la fondation du monde pour venir petit lui, pour pécher ou pardonner, pour venir la vie éternelle. L'y choisit dès avant la fondation du monde. Nous n'avons pas honte et nous n'avons pas à nous excuser de la doctrine de l'élection. Éphésiens 1er verset 4, on en a parlé abondamment quand je parlais de l'Église. De toute éternité passée, suivant la doctrine de l'élection, les croyants, l'Église, ont été ou bien a été, s'agissant de les croyants, ou bien a été, s'agissant de l'Église, a été prédestinés à être justifiés. Romains 8, verset 29. L'Église a été choisie de toute éternité, dès avant les temps éternels, pour être adoptée comme enfant de Dieu. Éphésiens 1er verset 5. L'Église a été choisie pour avoir part à l'héritage céleste. Éphésiens 1er verset 11. Sans mérite, sans œuvre personnelle de la part de l'Église, Dieu a sauvé l'Église. Et Dieu a adressé une sainte vocation à l'Église, encore une fois, non en vertu d'œuvres méritoires, mais plutôt par grâce, selon la grâce de Dieu qui est donnée en Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. C'est bien de cela que Jésus parle ici quand il dit, j'ai fait connaître aux hommes ton nom, aux hommes que tu m'as donné. C'est-à-dire, ces hommes-là que tu as choisi de sauver en moi, par moi, à travers moi, à travers mon sang versé. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu as choisi de me donner. Gloire à notre Dieu, vous voyez. Ce sera la même chose quand le Christ dira un peu plus loin, toujours au verset 6, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Pourquoi comprendre ce qui a passé là? Ils étaient à toi. Ouh. Le mérite du salut, le mérite du pardon des péchés, le mérite de la vie éternelle de ces hommes repose son grain de bagage sur une seule et unique chose, à savoir le choix de Dieu sur leur vie, avant même que le monde fût. Bon Dieu, ça, oui. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi, Jean 6, verset 44, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Gloire à notre Dieu. Paul a dit aux croyants de Rome que le salut ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, 16, 18. Et ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Gloire à notre Dieu. Voilà de quoi on parle quand on parle de la doctrine de l'élection ou de la prédestination. Mais il y a quelques théologiens qui séparent les prédestinations avec l'élection. C'est du temps perdu. Pas nécessaire. Toutefois, frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu, contient de nombreuses exhortations adressées à tous les hommes, à toutes les femmes, en les encourageant à croire au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul dira, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Autrement dit, ceux qui rejettent l'Évangile, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui rejettent l'évangile délibérément De plein gré, ils sont, malgré Samson Doulala, ils sont inexcusables. Malgré tout. Pourquoi? Mais parce que l'invitation au salut est adressée à tous les hommes. Et même le Christ ne reviendra pas sans que tous les hommes païens entendaient l'évangile. Du reste, mes frères et mes sœurs, vous et moi, nous devons être suffisamment humbles et confiants pour nous admettre que nous avons part de mystère, hein? Pour nous les humains qui étudions la parole, il y a une part de mystère dans ces deux réalités-là, dans ces deux vérités-là. Dieu qui choisit ceux qui seront sauvés et Dieu qui appelle tous au salut. Et Dieu qui n'est pas responsable de l'incrédulité de ceux qui ne sont pas sauvés. Les deux sont enseignés presque à égalité dans la parole de Dieu. Il y a pour nous un élément de mystère quant à comment cette vérité, cette théologie-là est agencée dans la pensée éternelle de Dieu. Et vous mettez sur bon raison, bon agencement, bon explication, des bon gens basés pour faire en sorte que Dieu part en contradiction avec tête lui. C'est moins avec vous pas arriver jusque-là. Nous sommes appelés à aller au-delà. Nous sommes appelés à rester dans les limites de ce que Dieu nous révèle. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Les deux vérités sont présentes dans la parole de Dieu. On n'a qu'à croire aux deux vérités en même temps, frères et sœurs, parce que les deux sont enseignées en même temps dans la parole de Dieu, un point sept. Cela ne doit pas nous empêcher d'évangéliser. Cela ne doit pas nous empêcher d'encourager des gens, de la parenté, du voisinage, de l'amitié, au travail, à accepter Christ comme étant leur sauveur. Au contraire, la doctrine de l'élection, au lieu de s'attarder au fait de ne pas évangéliser, il faut de nous faire évangéliser plus toujours. Voyez-vous? Nous sommes toujours au ferme, mais terminé là. Mais nous sommes toujours au verset 6, OK? Donc, j'ai expliqué, j'ai fait connaître, j'ai expliqué ton nom, j'ai expliqué aux hommes que tu m'as donné. Maintenant, je vais expliquer du milieu du monde. Vous et moi, nous venons du milieu du monde. Ah, vous et... Ouais, merci, merci. Là, il est 21 h. On nous y reviendra. Je n'oublierai pas où est-ce que je suis rendu. Alors, voilà. Et nous y reviendrons. Et merci. J'ai failli déborder plus que ça, c'est le cas déjà. Frère Jacques, tu couperas pour nous, OK?
Merci, pasteur.
Merci.